Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Nous avions dit que le lien est une œuvre de l'ennemi, mais il n'est pas à confondre avec lui. C'est bien distinct. Le lasso n'est pas le cow-boy. Hein? Le lasso, c'est un instrument avec lequel le cow-boy va se servir pour faire son travail de cow-boy, mais en aucun cas le lasso n'est le cow-boy. Et le cow-boy n'est pas le lasso. D'accord? Il faut bien comprendre que le lien, c'est quelque chose qui va se faire à partir de l'ennemi, mais qu'il n'est pas l'ennemi, mais que c'est une œuvre de l'ennemi. Donc le lasso n'est pas le cow-boy. Le lien n'est pas l'esprit méchant ou la puissance céleste, méchante. Le lien est une action de l'ennemi opérant de l'extérieur. Cette action sera d'autant plus évidente que l'homme ou la femme visée sera demeuré passif, voire même consentant. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire tout de suite, c'est que, en général, quand l'ennemi commence à lier une personne, il commence à la lier dans sa volonté. Pour rendre la volonté passive, pour que la volonté ne se dresse pas contre l'œuvre de l'ennemi, mais qu'elle la subisse, même à la limite, que la volonté démissionne, parce que le lien que l'ennemi est en train de tisser, c'est quelque chose que l'ennemi fait pour nous amener vers la tentation, vers le péché. Nous disons que la tentation n'est pas le péché. La tentation, Jésus a été tenté en toutes choses, sauf qu'il n'a point péché. Donc, on est bien d'accord, la tentation n'est pas le péché. Donc, l'ennemi commence à son œuvre envers une personne en commençant par la lier. Un petit peu, comme je disais dimanche, l'araignée avec l'insecte pris dans la toile, hein, un petit fil, deux petits fils, trois petits fils, quatre petits fils, à un moment donné, l'insecte ne remue plus parce qu'il est complètement lié, c'est-à-dire qu'il n'a plus la liberté de mouvement. On avait vu qu'un esprit peut suggérer à quelqu'un la possibilité d'un adultère. Le consentement trouvé en l'homme ou la femme fera le jeu de ce mauvais esprit. Progressivement, il lira le regard, les sentiments, les pensées et poussera la personne à l'acte. On pourrait dire que ce n'était qu'au départ qu'un mince fil et à la fin c'est devenu un lien. Donc ça commence toujours par attirer nos sens, nos cinq sens en fait. Une odeur, un regard, une parole peut commencer à nous donner l'envie de convoiter. Jacques va nous dire quelque chose d'assez intéressant. Il va dire dans Jacques 1, verset 13 à 15, il va dire ceci, « Que nul, quand il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui ne tente personne. Mais chacun est tenté, étant attiré par un leurre. » Vous vous rappelez ce que nous disions dimanche, que le mot « attiré », c'est quelque chose qui est de l'ordre aussi de la chasse et de la pêche. Quand on veut attirer une proie, on met un leurre. Quand on veut attirer un poisson, on met un ver au bout de l'hameçon. Quand on veut attirer un oiseau, on commence à siffler un faux chant d'oiseau et l'oiseau vient. Donc, il y a de la part de l'ennemi une panoplie de suggestions qui va s'adresser à notre âme, à nos sens. D'ailleurs, c'est si vrai que le Seigneur Jésus dira que celui qui déjà convoite avec ses yeux une personne, une femme, il est déjà en état de péché. Avant même d'avoir conçu l'acte, il est en état de péché. Et nous disions dimanche que, en ce sens, la grâce, elle est plus exigeante que la loi. La loi, elle, sanctionne l'acte consommé. La grâce, elle, s'attache à la motivation du cœur. D'ailleurs, c'est tellement vrai, c'est que Jésus disait à un moment donné, dans l'évangile de Matthieu, il disait que ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche et qui va dans le lieu secret qui nous souille, mais bien ce qui sort de notre cœur. Les pensées d'adultère, les fornications, la magie, etc., 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 etc. Donc le ligotage s'exerce toujours à partir du consentement à un esprit dominateur. Toute chose, toute relation peuvent être un moyen ou occasion utilisée par l'ennemi pour mettre sur nous et d'une manière progressive son filet. Nous avions vu, et je voulais le répéter ce soir parce que c'est tellement important. Comment on peut être lié? Eh bien, on peut être lié, par exemple, au travers d'une tradition familiale. On peut être lié par rapport à une position sociale. On peut être lié par l'intérêt porté à un objet. Par exemple, les gens qui se prosternent devant Bouddha, hein, et qui sont là en train de se prosterner devant une statue, l'esprit qui est derrière la statue commence à lier la personne. C'est un esprit religieux qui va lier la personne, qui va l'amener dans l'idolâtrie. L'intérêt porté à un objet, à une personne, à une cause, à un souvenir, à un travail, à un loisir. Oui, je disais le travail, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans leur boulot du matin au soir, et quand ils rentrent chez eux, ils sont encore en train de travailler. Ils sont dans une hyperactivité. Donc, ce que je sais, c'est que l'ennemi, il veut soit nous rendre passifs, soit nous rendre hyperactifs. Il n'y a pas d'équilibre dans le royaume de Satan. Il y a un équilibre dans le royaume de Dieu. à travers un travail, à travers un loisir, à travers un sport, hein, mettre un sport au-dessus de tout, quoi, et se donner totalement là-dedans, hein, son temps, son argent, tout dedans, quoi. À un événement, à un attachement. Certes, ce conditionnement a des aspects psychologiques, mais la ruse de l'ennemi est précisément de nous intéresser à ce seul aspect, afin qu'il en use pour établir progressivement sa domination paralysante. Quand on dit domination paralysante, ça veut dire que, à un moment donné, ta volonté est tellement liée que tu n'as plus de réaction à ce qui est en train de se passer. Cette tentation qui arrive, à cette convoitise qui arrive, ça a été progressif, et à un moment donné, tu t'abandonnes parce que, dans ta volonté, c'est fini, tu peux plus faire obstacle à ça. Surtout, ne me dites pas que nous ne pouvons pas résister, parce que nous avons une volonté qui, si elle est soumise à Dieu, peut s'opposer à toute action paralysante de l'ennemi. Lorsqu'une personne se fait lier, c'est parce que sa volonté s'est ouverte, non pas à Dieu, mais à l'action de l'ennemi. Et nous savons comment l'ennemi est suffisamment malin, on l'appelle le malin. Paul dit, nous ne devons pas ignorer ses desseins. Nous savons qu'il a une stratégie. Nous savons qu'il a établi des plans bien organisés contre les enfants de Dieu, mais aussi contre les personnes dans le monde, aussi pareil. Hein. La seule différence avec les gens du monde, c'est qu'ils n'ont pas Dieu, comme nous avons le Seigneur. Nous sommes d'autant plus responsables de ne pas rentrer dans cette manigance du diable, n'est-ce pas? Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu, c'est comme un radar qui nous avertit du danger que nous sommes en train de courir. Un lien n'est pas à confondre avec une tentation ou avec un péché, n'est-ce pas? On peut être lié par la pensée de l'adultère sans avoir effectivement commis le péché d'adultère. On peut avoir cette pensée, oui, j'ai envie de tromper ma femme, mais sans avoir commis l'acte. Mais si cette pensée demeure en nous, alors elle commence à nous lier dans nos pensées. Voyez-vous, le plus grand terrain d'activité du diable, c'est nos pensées, nos raisonnements humains. Lorsque nous raisonnons avec la parole de Dieu, nous sommes gardés par la parole. Mais lorsque nous raisonnons avec notre intellect humain, nous avons la porte ouverte à une attaque de l'ennemi. Je vous dis ces choses-là parce que la chair et les pensées de la chair sont inimitiés contre Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, inimitié? Inimitié, c'est... Non. Elles sont ennemies de Dieu. Elles haïssent Dieu. La chair haït Dieu. C'est pour ça que je dis que l'évangile que nous prêchons, l'évangile à l'eau de rose, hein, venez, ça y est, vous avez entendu un beau prédicateur qui a bien parlé pendant 20 minutes ou une demi-heure, allez, venez, avancez-vous, maintenant on va prier pour vous, vous êtes à Jésus. Baratin tout ça, ça c'est du baratin ça. Ça c'est de la démagogie religieuse, ça n'a rien à voir avec le vrai évangile. Pour qu'une personne vienne à Christ, elle n'a pas choisi le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a choisi. Et quel combat pour venir à Jésus, n'est-ce pas? Quel combat pour venir au Seigneur? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, dit le Seigneur. Quel combat ! Parce que de ta propre volonté humaine irrégénérée, tu ne peux pas faire un choix de Dieu, parce que ta pensée, elle est ennemie de Dieu dans l'état où tu te trouves. Elle peut même pas se soumettre à Dieu. Romains chapitre 8, lisez, vous allez voir. Il faut qu'il y ait une action puissante de l'Esprit Saint pour convaincre la personne que le message qu'il a entendu est un message vraiment qui a touché son cœur. Un message qui l'a percuté. D'ailleurs, si nous devions prêcher l'évangile, frères et sœurs, si la prédication de l'évangile devait être donnée, il n'y aurait qu'un unique sujet que nous devrions prêcher, c'est la croix. La croix. Christ crucifié et Christ ressuscité. Paul disait, je n'ai voulu connaître au milieu de vous rien d'autre que Christ crucifié, Christ ressuscité. Je vous ai dépeint Christ crucifié, mais aussi il est ressuscité d'entre les morts. Et Paul dira, malheur à moi si je n'évangélise pas. Mais il disait cela parce que il savait que chaque fois qu'il apportait l'évangile, il apportait la mort du Seigneur et sa résurrection. Il apportait l'œuvre de Jésus à la croix, le pardon des péchés, l'annihilation du corps de péché, la grâce que Dieu peut nous accorder lorsque nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Je vous rafraîchis un peu la mémoire en disant, il ne faut pas confondre le lien avec une habitude non plus. Même si telle habitude peut offrir à l'ennemi un moyen de nous lier. Il y a de bonnes habitudes, il y a des habitudes recommandables et qui ne seront jamais un terrain d'action pour l'ennemi, mais il y a aussi des habitudes qui sont propices au lien. Je m'excuse, je vais vous choquer, tant pis, je vais vous parler les jeunes, je parle aux jeunes comme aux moins jeunes. Par exemple, une personne qui a déjà eu une certaine vie, n'est-ce pas, et qui a eu déjà, qui a fondé un foyer, etc. Et cette personne, excusez-moi, je vais vous choquer, et cette personne qui continue à se masturber. Non, mais je dis des choses qui sont vraies. J'ai entendu ça, moi, j'ai entendu. comme si cette personne n'était pas satisfaite de son rapport avec son époux, qu'il faille et qu'elle prenne habitude, que ce soit l'homme ou la femme, de se masturber. Il y a un problème. Il y a un lien là dans la sexualité. Il y a une impureté sexuelle qui est là. Je choque, pour bien comprendre quoi. Alors l'exemple connu de l'alcoolique ou du fumeur est instructif. À partir de quel moment un homme est-il lié par la nécessité de boire ou de fumer? Ça c'est intéressant. Il n'est pas nécessaire d'insister et d'expliquer que ce lien peut être rapidement noué. L'alcoolique ou le fumeur savent bien qu'il ne suffit pas de cesser de boire ou de fumer pour être libéré. Non, non, non. Par exemple, la désintoxication faite par les hommes va amener la personne à faire un régime d'origine fruitier avec des oranges, etc. Pendant des mois, il va boire constamment des jus d'orange pour lessiver son intérieur, pour que la nicotine parte, pour que les... Mais je vous garantis, c'est qu'un leurre. Pourquoi ? La désintoxication au plan psychologique n'est pas encore la libération ou la rupture du lien. À preuve, les rechutes expliquées par un refrain connu et significatif, ça a été plus fort que moi. J'ai bu, ça a été plus fort que moi. Quand le lien tombe, eh bien, le fumeur ne fume plus, je vous le garantis. Quand le Seigneur agit, combien de fois avec mon épouse on a vu, et on a prié pour des personnes qui fumaient jusqu'à 3-4 paquets de cigarettes par jour et qui avaient ce désir de vouloir arrêter. Nous avons prié et ces personnes ont été libérées. Le lendemain matin, cette même personne, elle a été tentée de reprendre une cigarette pour essayer de fumer. La simple odeur de la cigarette lui donnait envie de vomir. C'était fini. Quand Dieu agit, il agit. Quand le lien part, il part. Ça a été plus fort que moi. Une fois, j'étais dans un séminaire, c'était à Gagnères, et il y avait quelqu'un avec nous, et qui fumait. Et puis, ce soir-là, bien sûr, dans l'ambiance de la foi, il prend son paquet de cigarettes, il nous dit devant nous, voilà, ce soir, c'est ma dernière cigarette, il jette le paquet, il le passe sous le talon, il fait ce geste devant nous, le lendemain matin, il avait à nouveau la cigarette au bec. Dans sa volonté, il voulait arrêter, mais il pouvait pas, parce que sa volonté était liée. Est-ce que vous savez que la cigarette tue un grand nombre de personnes en France? Je vous dirai la même chose, de l'alcool, ça tue, et la drogue, ça tue. C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas m'en passer. Mais qu'est-ce qui est plus fort que moi pour que je ne puisse pas m'en passer? C'est quelque chose qui me domine. Tu comprends, Église? C'est quelque chose qui me domine. J'ai tout fait pour arrêter, mais je n'ai pas pu. Bien sûr, tu ne pourras pas. Parce qu'il faut que le Seigneur agisse dans ta vie. Parce qu'il faut que dans ton cœur, tu veuilles arrêter cette chose. Vous savez pourquoi les gens fument? Je vais vous le dire pourquoi ils fument. Ils fument pour se calmer par rapport à toutes les épreuves qu'ils ont. Et une après l'autre. Ça me rend zen. Ouais, mais ça te pollue des pieds à la tête. T'es pourri des pieds à la tête. Tes poumons, ils sont noirs. Est-ce que vous avez vu des poumons de fumeurs? Jamais? Eh ben, c'est noir comme du goudron. Car les poumons d'un homme sain ou d'une femme saine, c'est tout rose à l'intérieur. Et pour se désintoxiquer de ces choses, pour que les poumons reprennent vie, il faut au moins 10 ans à un fumeur qui fume 2 paquets par jour pour retrouver ses poumons. Minimum. Alors je vous rappelle que les liens les plus fréquents tiennent à notre désobéissance, aux 2 premiers commandements. On pourrait les appeler les liens de l'idolâtrie, les liens de l'occultisme, les liens de la superstition, les liens établis lors de contacts avec des guérisseurs. Je rappelle ces choses. Écoutez bien. Avec des guérisseurs, avec des radiesthésistes, avec des yogis, avec des gourous, des liens qui attachent à des objets. Ah, si j'ai pas la médaille de Saint-Christophe ici, je prends pas ma voiture parce que je risque un accident. Ou alors, tiens, je vais mettre la médaille de Saint-Antoine de Padoue, comme ça je vais peut-être retrouver mes clés. Mais tout ça c'est lié à la superstition. Des liens qui attachent à des objets, à des amulettes, à des bijoux porte-bonheur marqués de signes astro, à des médailles, à des talismans, à des mascottes, au pouvoir protecteur, liens qui ont pour effet des craintes et obligent à la recherche d'une sécurité dans la récitation de formules ou dans l'observation de rites, des liens qui tiennent à des croyances inspirées de fausses doctrines religieuses ou d'idéologies politiques. Il y a aussi des liens d'habitude, de manière de penser, d'éducation légaliste, ceux résultant d'un comportement de passivité devant certaines situations, de désobéissance consciente répétée, de sentiments contraires à la volonté divine et pourtant tolérés, de compromission avec les forces du mal. Enfin, il y a les liens d'hérédité. de traditions familiales et sociales, de liaisons entretenues avec des personnes ou des groupes ou des organisations ou des systèmes qui nous conditionnent. Je vous dis que tous les gens qui sont dans les sectes, genre Krishna, etc., et qui sont en train de réciter leur mantra du matin au soir, ont besoin d'être libérés de démons. Jésus avait admis la réalité des démons, puisque pendant tout son ministère, il les chassait. Et les démons connaissaient bien Jésus. Alors, nous avions déjà vu ces choses dimanche, je voudrais revoir avec vous comment briser les liens. Parce que c'est bien de savoir qu'on est lié, mais comment faut-il pour être délié? Comment faut-il pour briser les liens? Et la liste n'est pas exhaustive des liens, vous le comprenez bien. Nous verrons comment les esprits travaillent ensemble pour amener une personne à s'avilir le plus possible. Il y a certains groupes d'esprits qui travaillent ensemble, qui collaborent ensemble pour détruire une personne. Nous le verrons plus tard. Alors, comment briser les liens? Nous avons compris dimanche que les liens sont brisés à cause de l'onction. Ésaïe 10, 27 dit ceci, il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Et nous avons vu que le mot joug ici, dans le mot hébreu et grec, c'était l'assemblage qui relie deux bœufs ensemble. Ils ont ça sur le cou, vous savez, c'est des trucs en bois qu'ils mettent sur le cou pour diriger les animaux dans leur marche. Et nous avons vu aussi dimanche que le mot onction dans ce passage, c'est le mot shemen en hébreu. Shemen, c'est l'huile d'onction du lieu saint. Donc ce n'est pas n'importe quelle huile qui brise l'onction, mais bel et bien la puissance du Saint-Esprit qui va agir. Ésaïe 10, 27. Évidemment, il fallait que le Seigneur, le jour où il rentrait dans son ministère, lui aussi manifeste cette onction. Et c'est ce qu'il va faire. Quand il va rentrer dans la synagogue, qu'il va être le lecteur du rouleau du prophète Ésaïe au chapitre 61, il va dire ceci, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Le lien qui est un joug sur la personne, est un joug d'oppression. Nous avons vu aussi que le Seigneur n'a pas d'autre moyen pour nous que de changer notre mentalité. Le mental, les pensées, les raisonnements. D'ailleurs, Paul l'apôtre ne s'est pas trompé quand il va dire à Timothée ce que je veux. Ce que, qu'en tout lieu, les hommes lèvent des mains pures devant Dieu et sans raisonnement. Lorsque nous abordons la foi avec notre raisonnement humain, nous sommes en grand danger. Le terrain par excellence où l'ennemi œuvre, c'est le terrain des pensées. Quand nos pensées ne sont pas soumises à l'esprit, parce que la plénitude de l'esprit ne réside pas en nous à cause de notre péché, alors l'ennemi, il a un droit puissant à venir pour faire son œuvre. Et alors, on est oppressé. Et dans l'oppression, frères et sœurs, quand le lien est posé sur nous, ça nous amène à nous justifier de ce que nous avons fait par toutes sortes de mensonges. Et nous voyons bien là le sceau de l'ennemi, n'est-ce pas? Parce que si tu avais le courage de dire ce que tu fais, tu ne mentirais pas et tu quitterais l'ennemi une possibilité d'agir dans ta vie. Oui, j'ai bu. Oui, j'ai fumé de la drogue. Oui, je suis en état de faiblesse. Mais Seigneur, délivre-moi. Si tu fais une telle prière, le Seigneur l'entend. Ça me fait penser à mes amis africains qui sont devant moi, hein. Nous aussi en Europe, c'est pareil. On a nos gris-gris aussi. Ne vous inquiétez pas. Mais en Afrique, là-bas, c'est... Et les marabouts, et les sorciers, et les malédictions sur les familles, et les droits qu'a Satan sur les familles, parce que telle ou telle personne a été consacrée à l'ennemi, etc. Il a un droit jusqu'à ce que cette personne ou cette famille se tourne vers le Seigneur, il les oppressera. Il les frappera de toutes sortes de maladies. Vous vous rappelez, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. À l'église d'Éphèse, ils étaient frappés de diverses maladies. Là où tu es, il y a la synagogue de Satan. Là où tu es, etc., etc., etc. Ensuite, nous avons vu dimanche que le Seigneur avait gagné la victoire, qu'il régnait. Et à partir du moment où nous appartenons à Christ, nous régnons avec lui, pas dans 10 siècles. Nous régnons maintenant avec lui sur la terre. Donc nous sommes dans une position d'autorité, nous sommes dans une position de puissance. C'est pour ça que lorsque l'ennemi vient, ne nous affolons pas, n'ayons pas peur. Si nous marchons droit avec le Seigneur, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'avons rien à craindre. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira avec des cris de peur loin de vous. En résumé, lier se réfère à Satan et à ses démons et délier aux personnes qui ont été liées par les forces des ténèbres. Satan est lié et sa victime est déliée. C'est le résultat produit par un service de délivrance efficace. Jésus a dit, tu es pierre sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je vous dis que ce que vous liez sur la terre est déjà lié dans les cieux et ce que vous déliez sur la terre est déjà délié dans les cieux. C'est chose faite, nous n'avons qu'à rentrer dans la victoire. C'était comme avec Josué, je te donne le pays. C'était Dieu qui combattait, mais Josué et les armées devaient avancer pour gagner le terrain. Il ne veut pas rester passif. Maintenant, je voudrais regarder un point précis avec vous que je n'ai pas abordé dimanche, mais qui est une grande importance pour l'église locale. C'est Matthieu 18, verset 15, où il est, et suivant, où il est dit que si un frère vient à pécher, va, trouve-le. S'il t'a écouté, tu l'as gagné, c'est bien. S'il ne t'écoute pas, va avec deux ou trois témoins. Et s'il n'écoute pas les témoins, ben, dis-le à l'église. Et s'il n'écoute pas à l'église, dehors, comme un publicain, un homme des nations. Dehors. Dehors, dehors. Alors, il est dit que premièrement, il faut reprendre le frère en particulier pour le gagner dans le pardon, pour qu'il demande pardon. Deuxièmement, s'il n'écoute pas, de venir avec deux ou trois témoins pour régler l'affaire. Troisièmement, s'il n'écoute pas encore, que cela soit dit à l'assemblée. S'il n'écoute pas, quatrièmement, à l'assemblée, qu'il soit considéré comme un homme des nations ou un publicain. Dans ce cas, regardez bien Matthieu 18, ce que Jésus va dire. Il va le dire à la fin, ce que vous liez sur la terre est déjà lié dans les cieux. Et regardez bien, dans ce cas précis, le fait de lier ou de les lier est en rapport avec le péché. Et le risque de briser l'unité de l'assemblée. Si quelqu'un pêche dans l'église, il est un obstacle pour l'unité de l'assemblée. Souvenez-vous d'Acan, qui avait volé le manteau de Chinéar et les lingots d'or, alors que Dieu n'avait dit de ne rien toucher, mais de tout détruire. Il avait pris ces choses, et à cause d'Acan, le peuple d'Israël a été mis en échec, a été défait. Parce qu'il y avait de l'anathème dans le camp. Fais attention qu'il n'y ait pas d'anathème dans l'église. En effet, le manque de pardon les uns envers les autres, pour diverses raisons, c'est-à-dire des paroles blessantes, ou des actes de discrédit, risquent d'atteindre cette unité. Le pardon est le moyen que le Seigneur nous donne pour nous délier mutuellement de toute mauvaise parole, pensée ou acte. Le pardon est libérateur. Il me délie de mauvaises paroles. Et délie l'autre personne des paroles qu'il a reçues qui lui ont fait mal. N'est-ce pas? Nous voyons un peu plus loin dans le texte qu'il est question de nous pardonner, verset 35, de tout notre cœur. Voyez-vous, c'est là que c'est important. Se pardonner de tout son cœur. Par le pardon, nous lions l'action de l'ennemi au milieu de l'assemblée et nous nous délions de tout ce qui a été un obstacle et qui a mis en péril cette même unité. Vous croyez que c'est rien du tout de se critiquer? Vous croyez que c'est rien du tout que de dire des paroles de discrédit? Vous savez que dans le monde spirituel, tout est entendu? Vous savez que les oiseaux des cieux, ils viennent, ils prennent ces paroles, ils vont le transporter dans les lieux célestes là-bas? Ainsi, nous pouvons constater que le passage de Matthieu 16, 18, qui donne le pouvoir, l'autorité à l'Église de prévaloir contre les portes de l'enfer, c'est-à-dire l'Hadès, pour lier et délier tous ceux qui sont captifs de l'ennemi, lui donne aussi ce même pouvoir de vaincre l'ennemi contre toute attaque concernant l'unité de l'Église. Pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Quand on commence à critiquer l'église locale, ou comment on commence à critiquer les frères ou les sœurs, ou même le pasteur, eh bien, faites-moi confiance, on est en train de mettre en péril l'unité de l'église. Satan, il se régale. Plus tu blablates avec ta langue, et mieux c'est pour lui. Remettre les péchés, c'est-à-dire pardonner, décharger quelqu'un d'une accusation acquittée, absoudre, est un acte de déliment. Vous vous rappelez quand le soir de la résurrection, le Seigneur est venu vers les disciples, il a dit, la paix vous soit. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a soufflé en eux l'Esprit Saint. Il va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire, maintenant, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, et à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ah ah! Remettre les péchés, c'est-à-dire pardonner, décharger quelqu'un d'une accusation, acquitter, absoudre, est un acte de déliment. Quand tu amènes un frère et une sœur à confesser sa vie, tu es en train de faire un acte de déliment de la personne. Et le diable, il perd ses droits. Parce que tant que tu es lié, tu es sous la coupe de l'ennemi. Mais à partir du moment où tu confesses ta vie et que tu sors de ton cœur toutes les choses mauvaises, pourries que tu as fait dans ta vie, alors l'ennemi n'a plus de droit sur toi. Tu es délié. Je vous ai dit que le lien n'était pas l'ennemi, que le lien c'était l'œuvre de l'ennemi sur la personne. En effet, la non-confession de nos péchés entrave notre prospérité spirituelle dans le présent comme dans le futur. Mais le fait de les avouer, de les confesser et de les abandonner nous fait rentrer dans le pardon et la miséricorde de Dieu. Cela lie l'action du diable à notre égard et nous délie des liens du péché. C'est pas beau ça? Quand on a compris ça, on va pas rester, n'est-ce pas, dans notre état misérable à nous arranger avec nos petits péchés. En disant, mais Dieu est miséricordieux, mais tu rêves. Mais est-ce que tu n'as pas compris que pour cela Jésus est parti à la croix pour mourir pour toi, pour tes péchés, pour tes iniquités? Tu rêves en disant, mais Dieu me pardonne. Oui, Dieu te pardonne, mais à condition que tu ex-homologuo, que tu confesses de ta bouche. Faut que ça soit entendu dans les lieux célestes, ça soit entendu par des témoins. Tu comprends cela? J'ai un cas où une fois une femme est venue de l'autre côté de la France parce qu'elle était pas bien, parce qu'elle avait entendu certaines choses dans un séminaire de Gagnères. Elle avait été interpellée et elle voulait nous voir à tout prix. Elle a traversé toute la France, mais avec des problèmes, sa voiture qui s'arrêtait en plein dans les villes, elle pouvait pas redémarrer, comme si le diable l'empêchait de venir sur Montpellier. Et quand cette personne est venue sur Montpellier et que nous étions avec un autre frère à prier pour cette personne, quand nous l'avons amenée à lui faire comprendre que si elle voulait que l'ennemi n'ait plus de prise sur elle, il fallait qu'elle avoue, qu'elle confesse ses péchés. Elle a commencé à confesser ses péchés. Et l'ennemi s'est manifesté. Seulement, elle n'avait pas tout confessé. Et l'ennemi nous faisait tourner en rond. Il nous faisait tourner en rond parce qu'il avait encore un droit. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'arrête. Avec le frère, on s'est retiré dans une chambre. On a commencé à intercéder auprès de Dieu, auprès du Seigneur, en lui disant, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ça se manifeste, mais il n'y a rien qui sort. Et le Seigneur nous a donné la révélation. Et il nous dit, mais c'est qu'elle a avorté 6 fois. Et elle n'avait pas confessé. Et quand on est revenu, et quand il lui a dit, mais sœur, tu as des choses que tu nous as pas dites. Voilà ce que l'Esprit de Dieu nous dit. C'est que tu as avorté 6 fois. Et quand elle avait les yeux hagards, elle disait, mais comment vous savez ça? Mais comment vous savez ça? Nous, on savait rien. C'était le Seigneur qui nous le disait. Mais à partir du moment où elle a dit oui, c'était fini. Les démons sont partis tout seuls. Sans avoir à prier au nom du Seigneur. Ils foutaient le camp tout seuls. Ils avaient perdu leur droit. Tu crois parce que tu as Jésus que c'est bon? Mais tu rêves. Tu rêves. Si tu as Jésus d'une manière correcte, oui, c'est bien. Mais si tu as Jésus d'une manière incorrecte, non, c'est pas bien. Tu auras des problèmes. Ta vie, elle sera un peu blackboulée. Tu seras pas dans la paix constamment. Et tu verras que ça gasse pas comme tu voudrais. Parce que tu ne fais pas ce qu'il faut que tu fasses. En effet, je répète, la non-confession de nos péchés entrave notre prospérité spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Proverbe 28:13. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse, les avoue et les délaisse obtient miséricorde de la part de Dieu. Mais le fait de les avouer, de les confesser, mais aussi de les abandonner, nous fait rentrer dans le pardon et la miséricorde de Dieu. Cela lie l'action du diable à notre égard et nous délie des liens du péché. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les Écritures, qu'on a la connaissance de l'hébreu ou du grec, quand vous allez voir les différentes versions dans les langues originales, par exemple dans le grec, la version de la Septante, nous voyons que le mot qui est là pour confesser son péché, il introduit une notion détaillée de la confession des péchés. Le verbe grec exégéomai, en grec et dans la Septante, signifie exposer en détail, donner des explications détaillées sur chaque chose, expliquer en détail de quelque manière, explique que. Et ça me fait penser, en vous disant cela, à ce que l'apôtre Jean nous dit, que si nous marchons dans la lumière, comme lumière est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Non, de chaque péché. Parce qu'il y a besoin de la purification des péchés pour chaque péché. Chaque péché. Alors nous on fait un prix de gros, j'ai péché, je te fais un sac avec un joli nœud, Seigneur, tu prends. C'est comme dans la confession chez nos amis protestants qui disent, nous avons péché contre toi, ô Dieu, point barre. Ah oui, ben oui. Parce que là, tu commences à prendre conscience que la confession des péchés est un acte libératoire qui va quitter à l'ennemi les avantages qu'il aurait pu acquérir dans ta vie parce que tu avais pratiqué certains péchés. Tu comprendras à ce moment-là que le Seigneur veut te montrer que la liberté qu'il te donne, c'est une liberté inconditionnelle. Lorsqu'il te libère, il te libère totalement. Ce que j'ai bien aimé dans ce mot, ce verbe grec dans la Septante, c'est exposer en détail. Tiens, on va exposer en détail nos péchés. Voilà, voilà ce que c'est qu'une confession. Mais ils se sont pas trompés dans l'Église catholique quand il y avait le confessionnal. Père, j'ai péché, je t'avoue, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait l'autre. Seulement, le prêtre, il omettait de dire que lui aussi c'est un pécheur qui devait aussi confesser ses péchés à celle à qui il entendait la confession. Confessez-vous les péchés les uns aux autres, n'est-ce pas? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Comme si, excusez-moi, je suis obligé de dire les choses. Pardonnez-moi, mais je vais vous les dire. Ce n'est pas le fait de faire 10 Ave Maria ou 10 chapelets qui va te faire avoir le pardon de Dieu. Seul le sang de Jésus peut te purifier. Ouais, faut pas rigoler, non? On a pris des substituts pour faire plaisir aux gens. Alors tu vas faire 3 Notre Père, 3 Je vous salue, 3 trucs à choses et ça y est, c'est... Mais non! Ça n'a rien à voir, ça! Souvent, nous avons entendu dire que lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous lui avons confessé nos péchés. Nous ne pouvons pas venir au Seigneur de notre propre initiative. La chair, donc, est ennemie de Dieu. Il faut une puissante conviction de péché par le Saint-Esprit. Une conviction de péché par le Saint-Esprit. Une conviction de péché par le Saint-Esprit. Une conviction de péché par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit a été envoyé pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Si vous saviez, mes bien-aimés, la clé que c'est ça, si vous saviez que c'est la clé à la félicité éternelle, ce que nous sommes en train d'entendre, écouter, c'est une clé. Et pourquoi viendrait-il nous convaincre de pécher alors que Dieu connaît nos péchés? C'est que le rôle du Saint-Esprit est de nous amener au pied de la croix pour recevoir le pardon de celui qui a payé le prix pour nous. C'est là le véritable but. Et bien sûr, regardez David. Voilà ce que disait David. Tant que je me suis tu, maison des péris, quand je résistais tout le jour, car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert mon iniquité, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Et tant que tu te tais, ton péché te mine de l'intérieur. T'es miné à l'intérieur. Si tu savais et si tu connaissais le don de Dieu, tellement que Dieu veut te libérer, te rendre libre à tout égard, si tu savais comment le Seigneur est bon pour que ton cœur soit dégagé de toutes ces choses qui encombrent ta vie. Alors il n'est pas question de faire de telles prières. Hein. Oh Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, viens à mon secours et fais quelque chose à ce terrible petit diable qui me cause tant de problèmes. Non, 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 tu règnes maintenant avec lui. Tu as reçu, je vous donne toute l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur le serpent et sur le scorpion, et rien ne pourra vous nuire. Mais je vous dis, réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Mais Jésus l'a dit. Il a donné l'autorité à son Église. Mais qui est l'Église? Chacun d'entre nous ici. Mais il est question de se lever avec la puissance du nom de Jésus-Christ et de dire au diable ce qu'il a à faire. Maintenant, nous voyons quel est le sens de la phrase « sera lié dans les cieux, sera délié dans le ciel ». La traduction de ces deux verbes dans le texte original grec est à la forme passive du participe passé, c'est-à-dire qu'il est fait allusion que lorsque le croyant agit dans le fait de lier et de délier sur la terre, que cela est fait sur un principe intangible de ce qui a été déjà fait dans les cieux par le Seigneur lui-même. Tu ne fais que rentrer dans la victoire du Seigneur. C'est un principe intangible. C'est déjà fait. Dans les cieux, il y a une provision de grâce pour lier, pour délier. Alors, nous nous rappelons, qu'en est-il au juste? Qu'est-ce que le Seigneur a déjà lié? Et nous donne-t-il de délier de nouveau? Jésus nous l'enseigne. En Matthieu 12, 29, il va dire ceci. Ou comment quelqu'un pourra-t-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens si premièrement il n'a pas lié l'homme fort et alors il pillera sa maison? Frères et sœurs, lorsque nous venons pour une délivrance et que nous avons discerné qui est l'homme fort, n'est-ce pas, qui tient la personne, eh bien nous avons cette possibilité de lier dans le nom du Seigneur cet homme fort pour le rendre inactif dans la délivrance. C'est que nous avons joué aux apprentis sorciers avec ce service de délivrance. On a cru qu'on pouvait aller, parce que le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront Christ, chasseront les démons. Ils ont cru que, parce que ce verset disait ça, qu'on pouvait faire n'importe quoi, y aller. Je vous ai dit qu'il y a des règles spirituelles pour un combat spirituel, et comme il y a des règles charnelles pour un combat charnel. Je vous ai déjà dit que c'était pas possible de nous attaquer à une puissance qui est beaucoup plus forte que nous, si nous n'étions pas sous le regard du Seigneur. Jésus va alors expliquer qu'il peut contrôler les mauvais esprits et les faire obéir, car il a déjà lié l'homme fort, c'est-à-dire qu'il avait lié Satan. Et en liant Satan, il pouvait maintenant chasser les démons. Et ça a été fait dans les cieux. Le fait même que les démons lui obéissent est la preuve évidente que Satan a été déjà lié dans les cieux par la puissance divine. Son pouvoir est brisé, la clé nous est donnée, nous avons autorité sur lui nous aussi. Le mot grec « lié » utilisé dans le verset précédent signifie « attaché comme avec des chaînes ». Il est attaché comme avec des chaînes, comme on attache un animal pour l'empêcher d'aller errer de ci et de là. C'est merveilleux, quand Satan est lié, il est rendu incapable de nuire, il perd sa capacité d'agir contre nous. Vous savez, ce que vous entendez ce soir, c'est pas de la rigolade, hein. Il y a des personnes, ça fait des années, qui traînent dans des problèmes, et qui traînent dans des problèmes, et qui traînent dans des problèmes, et qui traînent dans les problèmes. Il y a pendant des années des personnes qui sont liées dans leur volonté et qui ne veulent pas accepter que Satan ait eu une emprise sur eux. Mais s'ils s'examinaient, ils le verraient. Si l'Esprit de Dieu leur montrait les choses, si ils avaient cette capacité de dire, mais oui, je veux me soumettre au Seigneur, je veux me soumettre au Seigneur, et maintenant, en me soumettant au Seigneur, je peux résister au diable. Mais lorsque tu es dans la rébellion avec Dieu, quand tu es dans la désobéissance, comment veux-tu résister à l'ennemi? Il va te jeter de sa route comme un fétu de paille. Nous pouvons aussi nous appuyer sur le fait que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les clés du royaume nous ont été données. Il s'agit du pouvoir de régner sur les forces des ténèbres. La bataille a été déjà gagnée dans le ciel. Notre action consiste à lier sur la terre ce qui a été déjà lié dans les cieux. En résumé, lier se réfère à Satan et à ses démons et délier aux personnes qui ont été liées par les forces des ténèbres. Satan est lié, sa victime est déliée. C'est le résultat produit par un service de délivrance efficace. Vous souvenez, tous les enseignements que nous avons eus, toutes les prédications que nous avons eues, les règles spirituelles concernant le combat spirituel avec l'histoire d'Israël, avec Josué, ce que nous avons pu tirer de ces enseignements-là, de cette conquête de Canaan, comment Dieu a utilisé Josué, comment il lui a donné toutes les possibilités de pouvoir avoir la victoire, parce qu'il lui a édicté des règles. Il y a un grand danger aujourd'hui, c'est que les gens qui se disent être remplis du Saint-Esprit, ils puissent s'affranchir de la direction divine pour effectuer ce qu'ils ont à faire. Jamais de la vie, frères et sœurs. Même si tu es rempli de l'Esprit, c'est Dieu qui te conduit dans l'affaire. Et si tu gagnes la victoire, c'est pas Dieu, toi qui gagne la victoire, c'est Dieu qui l'a gagné déjà pour toi et te fait la grâce de rentrer dans cette victoire. C'est tout, point à la ligne. Et ne t'enorgueillis pas que tu chasses des démons, parce que c'est pas toi qui les chasses, c'est le doigt de Dieu qui les chasse, c'est l'Esprit Saint. Eh oui. Et ne te me fais pas un badge ici avec un truc chasseur des démons 4 étoiles, spécialisé dans l'église. Tout ce qui bouge, je chasse. On est obligé de constater, par exemple, dans les 3 récits synoptiques des évangiles, comportent en tout 53 mentions ou récits de guérison par la parole ou par les mains du Christ. 18 dans Matthieu, 17 dans Marc, 18 dans Luc. 24 fois, il est spécifié que ces guérisons concernaient des démoniaques ou bien que les malades étaient délivrés d'esprits impurs. C'est intéressant à voir. Il faut fouiller dans l'écriture, vous comprenez? Il y a 18 fois dans Matthieu, 17 fois dans Marc, 18 fois dans Luc. 24 fois, il est spécifié que ces guérisons concernaient des démoniaques ou bien que les malades étaient délivrés d'esprits impurs. Dans ces 3 évangiles, 47 fois, il est parlé de démons. Il est accompagné 8 fois de qualificatifs comme méchants et 20 fois d'impurs, selon le contexte. Donc vous voyez que les évangiles foisonnent de détails concernant, n'est-ce pas, ce monde spirituel mauvais. Si je suis revenu sur ce qui a été déjà un peu dit dimanche, c'est parce qu'il y avait nécessité de le redire ce soir. Dommage pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, parce que c'était autre chose. Je fais que répéter, mais autre chose. Parce que l'Esprit de Dieu, il conduit comme il veut. Est-ce que nous allons continuer à avoir des vies chrétiennes médiocres? Ou alors, allons-nous faire face à nos responsabilités? Examiner si nous avons vraiment vécu une vraie conversion? S'il y a vraiment eu un toucher de Dieu sur nos vies pour avoir reçu le feu de l'Esprit en nous? Avoir spontanément confessé nos péchés? Avoir vu la main de Dieu agir? En fait, est-ce que ce soir, dans ton cœur, tu es sûr que tu es délié de toutes ces choses? Si dans ta vie, il n'y a pas encore des choses qui te maintiennent sous une servitude. Tu sais, c'est pas toujours comme nous le croyons. Par exemple, quelqu'un qui est maniaque. Il faudrait bien qu'il se pose la question, pourquoi il a cette maniaquerie? Toujours, si c'est pas là, c'est là-bas. Tu peux être ordonné. Mais quand ça devient dans la démesure, faisons attention à ces choses. Donc il y a il y a un monde spirituel qui est réel. Moi, j'ai entendu mon gendre me dire, si Dieu existe, il faut que je le voie. Il dit, c'est bien. Donc tu vois tout, tu crois tout ce que tu vois. Il me dit oui. J'ai dit, mais tu te rends compte, regarde ces arbres comme ils remuent là. Est-ce que tu vois le vent? J'ai dit, tu en as les effets. Mais est-ce que tu le vois le vent? Non, tu peux pas le voir. Tu peux pas voir le vent. Tu vois les effets du vent sur la nature. Tu vois les arbres s'agiter. Tu vois ta voiture des fois quand il y a grand vent qui commence un peu à riper. Mais est-ce que tu as vu le vent? Est-ce que tu as vu le vent? Tu as vu les effets du vent, mais tu n'as pas vu le vent. Ainsi est Dieu. Dieu est Dieu. Tu le vois? Tu le vois pas, mais tu le sens. Hein, que nous sentons Dieu agir dans nos vies. Hey, vous croyez que David, il a pas senti quand il disait, tant que ta main s'appesantissait sur moi. Et qu'est-ce qu'il ressentait, David? La main de Dieu sur lui. Qu'est-ce qu'il ressentait, ce David? Mes os se consumaient. Je rugissais tous les jours. Et pourtant, David, c'était un homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Vrai ou pas? Mais lui aussi, il a fait comme le coyote.
Les yeux lui sont sortis quand il a vu Béthabé.
Il a été amorcé par la convoitise. Et lui aussi, il est tombé dans le panneau. Il a payé cher, n'est-ce pas? Il a payé très cher. Pour être plus concret, nous regarderons des exemples de l'écriture, comment Jésus a agi en libérant les personnes. Nous verrons les causes de ces libérations. Nous verrons aussi si le péché était en ligne de mire dans les libérations ou les délivrances que Jésus faisait. Nous verrons comment les esprits sortaient. Comment il se manifestait dans une personne quand cette personne était possédée. Faisons attention que le lien ne débouche pas sur une possession. Parce qu'il y a des portes spirituelles qu'on peut ouvrir. Quand tu ouvres ton cœur à la convoitise rentre. Tu comprends cela? On reste sur sa parole du Seigneur. Tout ce que vous lirez sur la terre est déjà lié dans les cieux, parce que Jésus a lié déjà l'homme fort. Il a rendu Satan sans puissance. Et tout ce que vous déliez sur la terre est déjà délié dans les cieux. Et vous avez, vous, Église, les clés du porte de l'Hadès. C'est nous qui régnons. Nous régnons maintenant avec le Christ. Pas dans 1000 ans. Maintenant, nous régnons avec lui. L'Église est la représentation du gouvernement de Dieu sur la terre. Sur la terre. Pourquoi? Parce que Paul va dire, bientôt le Dieu de paix mettra Satan sous vos pieds. Or, la tête, c'est Christ, et le corps, c'est l'Église. Et les pieds du corps, c'est encore l'Église. Et Satan, il est sous les pieds de l'Église. Réveillé, pas endormi. Une Église qui base sa foi sur la parole, et non pas sur les enseignements, les 20 enseignements des hommes, sur les 20 philosophies. La parole n'a pas besoin d'interprétation particulière, elle s'interprète elle-même. Et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit tout de suite après, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout de suite après, Jésus dit, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sera lié en haut. Tout ce que tu déliras sera délié en haut. Amen. Alléluia. L'Église a une grande puissance quand elle marche avec foi et par l'Esprit du Dieu vivant. C'est pour ça que chaque matin que tu te lèves, la première prière que tu dois faire, c'est de dire, Seigneur, en ce jour, que mon esprit me conduise dans un chemin de droiture. Et ensuite, tu lui dis, enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît et pas ce qu'il me plaît. Ce qu'il te plaît et pas ce qu'il me plaît. Et ainsi, nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. Plus que vainqueurs en celui qui nous a tant aimés. Amen. Et puisqu'il dit, puisque ni les anges, ni les démons, rien ne pouvoir vous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Rien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et que ça vous serve pour votre instruction personnelle et instruction au milieu de l'Église. Quand vous serez peut-être en contact avec d'autres personnes, d'autres même soi-disant chrétiens, que vous verrez les choses, amenez-les au Seigneur. Montrez-leur le vrai chemin. Le chemin qui va illuminer vos vies. Hein, et qui illuminera la vie de ceux qui vous ont écouté. Parce que vous les aurez amenés sur le chemin de lumière. Là où le Seigneur vous donne sa lumière. Que Dieu soit béni.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net